Bon, alors ça, non, non. Attendez, là.
C'est
ça,
pas hier soir.
C'était
là.
Pas hier soir au Centre Bell. Non, 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 c'était pas. Ça, c'était Roseanne Barr, la comédienne qui avait été appelée à chanter l'hymne national américain dans un stade et qui avait donné cette... C'est incroyable. Et... Non. Ray Lalonde, qui a tout vu, tout entendu dans les stades américains, canadiens, au Centre Bell, au Forum, a entendu aussi l'interprétation des hymnes nationaux hier. Yannick Bouchard était dans sa cuisine, en train de souper, puis il dit « Qu'est-ce que c'est ça? » Et Ray, il y a beaucoup de gens qui ont réagi depuis que nous sommes en onde ce matin à 7 heures, qui ont entendu cette interprétation, disons, plutôt médiocre des hymnes nationaux hier, et qui disaient « Mais qu'est-ce qu'on attend pour se débarrasser des hymnes nationaux?
Ouais. » Il faut regarder ça de deux côtés. D'abord, ça va main dans la main avec le sport depuis le début du siècle, le siècle, le 20e siècle. Alors, on accepte que, pour les Américains, un peu, c'est un moment un petit peu patriotique. Ça fait partie des mœurs. C'est pas dans tous les événements sportifs que ça existe, mais dans la majorité. Et il faut savoir aussi que, il y a certains événements dans des sports individuels comme le tennis, comme le golf, on ne fait pas d'hymne national. Alors, mais, à la base, en 1931, ça avait été forcé dans une résolution américaine de précéder tous les grands matchs sportifs. Et c'est la NFL qui avait poussé et motivé cette décision-là. Là, on a eu les controverses avec Colin Kaepernick en 2016, lorsqu'on protestait contre l'hymne national. Donc, ça a refait surface. Puis à chaque fois que ça refait surface, on questionne la valeur. Moi, je le vois comme une occasion de divertir davantage, de faire partie du show d'avant-match. Certaines équipes y vont de façon trop formelle, trop structuré. Puis là, à un moment donné, la jeune génération de consommateurs d'aujourd'hui regarde ça en disant « ça m'intéresse pas l'hymne national de l'orgue, puis un hymne national, c'est des choses qui ne sont pas liées à ma génération. » D'un autre côté, moi, je vois ça comme une occasion de dire « emmenez des artistes, intégrez-le dans un show, distinguez-vous de la façon dont vous allez le faire. »
Es-tu d'accord à dire, parce que je dis à Yannick Bouchard puis aux auditeurs tout à l'heure, pour l'avoir et le vivre régulièrement, parce que de temps en temps, je vais voir les Blackhawks à Chicago, l'interprétation des hymnes nationaux à Chicago, surtout l'hymne national américain. Avant, c'était Wayne Messmer dans le vieux Chicago Stadium. Et là, aujourd'hui, c'est Jim Cornelison. C'est un moment... Écoute, tu payes ton billet, là.
Pour
et
ça.
Je vous garantis, vous êtes tous devant moi, François, Thérèse, Yannick et tout ça. Je vous garantis, là, je vous amène à Chicago. Là. Rester insensible pendant l'hymne national, c'est impossible. La foule embarque.
Exact.
Et crie du début jusqu'à la fin, et la montée finale du chanteur sur les dernières mesures, ben tu vois, c'est un peu ce que tu viens de dire, Ray. C'est une façon de dire, on va faire du spectacle voilà. Avec l'hymne national.
Ça donne le ton aussi, oui. Ray, à la soirée.
Oui, mais ça fait partie de l'expérience de la soirée. Ça fait partie de l'avant-match de la présentation dont on a parlé de jeudi soir dernier. Tout ça doit être inclus dans un pour justement emmener les gens vers un summum. Pour qu'il soit prêt à éclater au moment où la rondelle est déposée sur la glace.
On le faisait avec Ginette Reno, qu'on amenait avec émotion. Ça ne peut pas être plus avec émotion à la période des séries. C'était voulu, ça.
C'était voulu.
Non, mais pour faire grimper le niveau
sûr,
d'émotion.
Parce que c'est parce qu'on amène des gens connus qui vont faire vibrer les partisans, leur en redonner pour leur argent, pour faire en sorte qu'ils quittent en se disant « Wow, déjà après deux minutes, ça a valu la peine de venir ce soir. » Je ne pouvais pas rater cette occasion-là. Mais c'est juste qu'on doit le moderniser. Hier soir, en tout cas, là, c'était comme un peu flat et les gens se sont posés la question pourquoi on a besoin de ça.
Mais on peut pas rapper, tu sais, on peut pas rapper là au Canada.
Le faire en 30 secondes.
Non, c'est mais bon, le rap, tu sais, le rajeunir.
Mais Ray, à ton époque, je veux dire, est-ce que vous changiez d'interprète des hymnes nationaux tout le temps? Parce que là, au Centre Bell, c'est presque Star Academy, là.
C'est une question intéressante. Moi, personnellement, je trouvais que l'hymne national devait faire partie du rituel. On avait un individu qui le faisait, on le mettait en tuxedo, c'était spécial, on ne créait pas pour lui ou pour elle là, une occasion de se mettre en valeur. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'optique est plus de dire, ben on a des jeunes artistes dans notre univers, donnons-leur la plateforme pour qu'ils puissent se faire valoir.
Mais je pense que ça, on devrait revenir à ça parce qu'on s'identifiait à cet individu-là qui, lui, devenait donc le porte-parole quelque part.
Dans le passé, c'était Roger Doucet. Roger Doucet. Ensuite, ça a été
André Ouellet.
Après ça, il y a eu Charles Linton.
Charles Linton. Et exactement.
Mais depuis Charles Linton, il n'y en a pas eu de constant. Il y a des répétitions, puis il y a des jeunes qui viennent s'essayer. Ça donne, oui, mais Ginette, pour les séries surtout.
Celui à Boston, là, comment il s'appelle?
René Rancourt.
Il était temps qu'il finisse, lui. Non, René était très sympathique, mais à la fin, il avait des difficultés à tenir la note.
Absolument. On se rappelle de Kate Smith à Philadelphie.
Kate Smith.
Il y en a eu dans plusieurs amphithéâtres qui ont eu des images chevronnées là, à qui on associait l'hymne national. Mais à Montréal, là, je pense qu'on fait trop d'essais.
Mais je vous dis, là, à Chicago, il faut le vivre une fois. Que vous n'aimiez pas les Blackhawks, c'est une partie du spectacle. Payez votre billet pour aller voir les Blackhawks. Vous savez que même s'ils perdent, vous allez avoir un hymne national... Et avec des frissons dans le dos.
Et encore, c'est un rendez-vous. C'est que les gens se rassemblent toujours autour de cet événement.
Et à ça, Paul, je rajouterais, là, tu sais, le goal song, si vous me permettez l'expression en anglais, là, la chanson qu'on joue lorsqu'on marque un but, celle des Blackhawks.
Oui.
Chelsea. Celle des Rangers, là. Ouais. C'est phénoménal parce que ça reste avec nous après qu'on ait quitté le match. Puis on les associe directement aux équipes à chaque fois dans notre imaginaire.
Alors, c'est Chelsea Dagger, puis le groupe, c'était The Fratellis. Et, Ray, parlons de Bianca Andreescu, qui a annoncé un partenariat avec la prestigieuse marque de montres Rolex. C'est pas d'ailleurs la première fois au tennis que Rolex s'associe à des superstars.
Rolex est avec le tennis depuis 1978, avec Roger Federer à raison de 8 millions de dollars par année. Il y a trois autres dames, Angelique Kerber, Garbine Muguruza et puis Caroline Wozniacki, déjà des joueuses célèbres. Et là, Bianca se joint à ce groupe-là.
Est-ce qu'on sait combien?
On ne connaît pas le chiffre. Mais ce qu'on sait, c'est que quand tu rejoins Rolex, là tu rentres dans une autre stratosphère de relations commerciales. Et pour elle, l'occasion est vraiment super. Parce que là, elle va devenir une star mondiale.
Oui.
Là, c'est beau le Canada, puis l'Amérique du Nord, puis l'US Open. Ça a été payant. Mais là, c'est le début des journées payantes parce que partout sur la planète, on va la voir comme une prochaine Serena ou une prochaine Wozniacki.
Mais ça ajoute aussi à la pression déjà énorme qu'elle a sur ses épaules. Là, elle ne peut plus se permettre de faux pas. Là.
Non.
Il faut qu'elle poursuive
faut
en
qu'elle,
plus.
Faut qu'elle
de gagner
faut
des
qu'elle
matchs.
Soit constante, puis il faut qu'elle soit régulière.
Et est-ce qu'un contrat, un méga contrat comme celui de Rolex, peut lui en amener d'autres?
Absolument. Là, elle a des ententes avec BMW, avec Head, les raquettes évidemment, puis avec Copper Branch. Mais ça, c'est déjà quatre grandes marques, mais Rolex est la plus grande. Rolex là, a une valeur de marque, le brand value, là, de 8 milliards de dollars. C'est la cinquième parmi les marques de luxe au monde.
De luxe. Là.
Derrière Hermès et Chanel. Et alors là, elle se situe dans un autre environnement et les montres se portent bien au tennis. Vous avez juste qu'à penser à Raphaël Nadal qui porte sa montre Richard Mille de 850 000 dollars pendant ses matchs.
Mais c'est pas la montre la plus chère.
Moi, je l'enlèverais.
C'est pas la montre la plus chère. Il y a un joueur de football américain qui s'appelle Odell Beckham Jr.
C'est la même montre. C'est la Richard Mille.
250 000?
Oui. Ouais, ben, Nadal, c'est 850 000. Et il joue au tennis avec pendant 5 heures.
C'est ça. C'est
incroyable.
C'est pas de problème.
Mais est-ce qu'une autre Québécoise avait eu... Il y a d'autres Québécoises... C'est aucune Québécoise qui a eu un contrat pareil.
Non.
Mais Eugénie Ray, à l'époque, elle a connu sa bonne saison.
Oui,
jamais autant que Bianca Andreescu.
Non, mais quand même très bien, avec Coca-Cola et Nike, entre autres. En passant, Nike est aussi un commanditaire de Bianca. Bianca, c'est le début là, d'un alignement, là, ce qu'on appelle un roster là, commercial, qui va aller vers un apogée. Elle va faire beaucoup d'argent hors terrain.
Ray Lalonde, merci beaucoup. Mmh. Et retenons la suggestion de Thérèse, qui voudrait qu'on rappe le Haut-Canada. C'est-à-dire, on entend des rappeurs chanter le Haut-Canada.
Terre de nos aïeux, ton bon et sain, de ferons glorieux, ton épée!
Pas ton épée, ton nom d'épée! Épée!
Ça ferait jaser, en tout cas.
Rappé par Ron.
Non,
on devrait envoyer Ron chanter les hymnes nationaux.
Ben oui!